Depuis Coq à l'âne.
Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Ah bah, j'ai bien cru qu'on n'aurait jamais un démarrage convenable de cette émission du Coq à l'âne qui a débuté maintenant depuis un quart d'heure en antenne. Il est l'heure de passer aux choses sérieuses. Numéro 763, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du Coq à l'âne podcast avec alors les fidèles coqualiens autour de la table. Nous avons notre renard argenté qui est là, Jean-Claude Hérault. Voilà, fait plaisir.
Ça commence bien.
Nous avons Bruno André qui est là.
Bonjour,
aussi.
Bonjour à tous.
Nous avons notre patounet qui est là aussi. On aura une pensée émue pour celui qui a eu un petit problème de scooter tout à l'heure. C'est notre ami Pierre-Louis. Pierre-Louis, si tu nous entends, j'espère que ça va. Voilà, non, mais rien de bien grave, mais bon, ouais, problème technique, hein, vous savez ce que ça fait, ce qu'a fait. Ouais, une demi-heure avant l'émission, ce sont les choses qui arrivent. Et notre invité, eh ben voilà, Christophe.
Comme Christophe. Apparemment, l'émission a commencé depuis bien plus longtemps.
Ça a commencé à l'apéro.
Enfin, l'apéro, quoi.
Christophe Pirel, bonjour.
Bonjour.
Bon, ça fait plaisir.
Ah ben moi aussi.
Ça fait plaisir de te recevoir. Pour la...
On ne sait plus.
Tout à l'heure, on plaisantait avant le début de l'émission avec Patounet qui disait « Mais puisque Pierre-Louis n'est pas là, on n'a qu'à demander à Christophe de venir le remplacer. » Et je lui dis « Mais non, c'est Christophe l'invité. »
Et ben c'est moi l'invité.
Ah, et c'est ballot.
Il n'est même pas chroniqueur.
Non, par contre, moi, j'ai pas mis un pull rouge et les filles.
Ah, voilà, c'est parti.
Bon, j'ai en tout cas, très heureux de vous retrouver tous, hein, les amis. Et surtout, alors, bien sûr, Christophe, mais surtout Jean-Claude. Hein. Jean-Claude, agenda de ministre, c'est vraiment difficile de te trouver libre.
Ben oui, ben...
Je crois que ça doit faire 5-6 émissions.
Ben oui.
Qu'à chaque fois, tu me dis « Ah ben non, je peux pas. »
Non,
ah
mais
ben
en
non,
fait,
je peux pas.
En fait,
t'es à la retraite ?
Non, la vraie raison, c'est que vous avez fixé des dates pour pas que je sois là.
Ah ben, ben.
C'est un complot.
Et t'as remarqué c'est un complot. D'ailleurs que
c'est un complot.
Celle où je pouvais venir,
ouais.
Il est là.
Et oui, ouais. Exactement.
C'est parce qu'il avait le choix dans la date, c'est pour ça.
C'est parce que Jean-Claude, il aime bien quand je suis là.
Ouais, j'ai l'impression.
Des débats de gauche. Enfin, dans cette émission, on veut parler un peu de la gauche.
Bon, tout va bien, tout le monde va bien, tout ouais. Le monde est en forme, tant mieux. Christophe, donc le retour du frère de la revanche, hein, comme j'ai l'habitude de dire, le frère de la revanche de l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'ours, qui
mais
a bouffé le facteur et qui a pas eu peur. Il est là, il est de retour. Alors, on va commencer tout de suite. On parle de quoi ? On parle de quoi ? Pour
je peux
commencer.
T'envoyer un ordre du jour, mais on s'en fout.
Non, tu m'as rien envoyé du tout.
Non, c'est toi non, qui l'as envoyé.
C'est toi qui l'as envoyé.
Mais ah bah oui, bien sûr.
On a remarqué collectivement que ça fait quand même un sacré paquet de temps que t'envoies des ordres du jour qui sont pas respectés. Il est temps de partir à la retraite, d'ailleurs.
Alors, ne dérangeons pas à la règle. Et
ne suivons rien du tout.
Je propose de parler donc du pape François qui nous a quittés ce week-end.
C'était pas l'ordre du jour.
Et en même temps, quand tu nous as envoyé l'ordre du jour, il n'était pas encore mort.
Il n'était pas encore mort, je suis c'est désolé. Sûr. Voilà, donc ouais. Il nous a quittés ce week-end. C'est un beau symbole, hein, le jour de la résurrection du Christ. Lui tire sa révérence. Moi, je dis chapeau bas.
C'est classe.
François, c'est classe. Un petit mot, tout le monde est catholique.
En attendant, il ne s'est pas pointé au balcon avec un lapin de Pâques, lui.
Non.
Hein, on est d'accord.
On est d'accord.
Il ne s'est même pas pointé à la cathédrale
on
de
est...
Notre-Dame.
On est...
Il a préféré aller à Marseille.
Mais il a eu raison en plus.
Ça va être compliqué encore. Ouais, ça va être compliqué. Donc, tout le monde est catholique visiblement autour de cette table. À part Jean-Claude hein, qui est cégétiste. Mais qui a donc...
ça.
Je vois pas le rapport.
Ah bah si, si, si.
Ah bah non.
Ah si,
ah bah
c'est
non,
religion.
Rien.
Ça dépend ce que t'appelles d'abord catholique. Hein.
Oui, non mais est-ce que... Voilà, c'était...
Moi, on est baptisé.
Je suis c'était... baptisé, j'ai fait mes deux communions. Hein.
Oui.
Ça m'empêche pas d'être adhérent de la CGT.
Exactement. Non, mais ça, c'était,
baptisés,
c'était le petit clin d'œil à Jean-Claude que j'aime bien faire ouais. De temps en temps, bien sûr. Ouais. Non, mais tout le monde a été élevé dans la religion catholique ou pas ?
Oui.
Il n'y a
oui,
pas
oui,
de mal
plutôt,
à...
Oui.
Plutôt. Oui,
plutôt.
Oui.
Ben oui. Moi, je faisais le catéchisme et tout.
Ça nous a pas empêché les ruptures ou pas. Il y en a certains, je ne sais pas ici, qui sont peut-être encore pratiquants.
Non.
Je ne le suis pas.
Non, moi, je l'ai été, mais je ne le suis plus.
Voilà.
Moi, pareil.
Moi, je dirais que je le suis de moins en moins.
D'accord.
Voilà.
Ok.
Mais
moi, je l'ai été par obligation, puisqu'on m'a mis dans une école de jésuites, donc c'était incontournable.
C'est bien ce qui me semblait qu'il
après,
était un peu jésuite.
Tu n'étais pas dans les Pyrénées.
Non, non, c'était pas dans les Pyrénées, mais c'était pas mal non plus où j'étais.
Après, il faut avouer, Thierry, que ce pape, en l'occurrence.
Ce pape.
Il avait une forme de rupture par rapport à tout ce qu'on avait connu ces dernières années sur l'Église catholique, qui a remis en fait. On dit est-ce qu'il était de gauche, est-ce qu'il n'était pas de gauche. En vérité, je suis pas sûr qu'un pape ça puisse être de gauche.
Ouais.
D'ailleurs, sur des questions sociétales, il n'était pas vraiment de gauche. Il était pro-avortement, etc. Anti-avortement.
Oui, oui. J'ai eu peur là.
Il a eu du mal à se positionner sur ces questions. La place de la femme dans l'Église, etc. n'a pas beaucoup évolué. En revanche, c'est vrai qu'il a refait de la religion catholique, ce qui était l'origine sans doute du texte qui a été qui est le Nouveau Testament, c'est-à-dire la place des petits, la place du pauvre, la place de ceux qui souffrent le plus, et qu'il a remis au centre de la religion, et souvent d'ailleurs en tapant un peu les puissants. Tu vois, dernièrement, Jude Evans ou autres se sont retrouvés sous les foudres en fait du pape François, qui a pris des positions politiques, mais qui sont des positions politiques appuyées sur le texte. Tu vois, certains ont voulu en faire un homme politique, je pense qu'ils se sont trompés. En revanche, c'est vrai que du coup, c'était une vraie rupture par rapport à ce qui s'est passé depuis très longtemps quand même, où la religion catholique, c'était beaucoup les ors, les tenues, l'encens, le faste, etc. Très déconnecté d'une population qui a plutôt besoin d'une religion, si c'est nécessaire, incarnée. Quoi.
Est-ce qu'on peut dire qu'il a remis l'église au milieu du village,
Ben oui, je pense qu'on peut le dire, oui. Et puis, il a aussi, pendant son pontificat, il a eu affaire à des affaires lourdes pour l'église catholique, où il a pris parti, où il ne s'est pas à la limite dégonflé.
Disons qu'il a Il a quand même tranché un peu sur l'histoire des prêtres pédophiles. Bon, d'accord. Il y a encore quelques boulets.
Il a dit c'est bon les gars, maintenant on arrête les conneries, on sort les dossiers.
Oui, on sort les dossiers.
Il a eu ce courage-là.
Mais tu le disais, il y a quand même eu le problème des prêtres pédophiles. Bon, c'est bien, d'accord. Par contre, le mariage des prêtres.
Non, mais
et l'ordination des femmes.
Non, mais il y a plein de choses qui n'ont pas
évolué. Ça, on n'avancera jamais.
Mais c'est vrai qu'il a, eu une forme de rupture dans ce que la religion, je pense, doit être, c'est-à-dire non pas une religion de puissance, c'est-à-dire qu'on est dans une religion qui concerne tout le monde. Après, que tu y crois ou que tu n'y crois pas, mais c'est vrai qu'il a remis au centre les gens qui souffrent le plus. Et d'ailleurs, sur la question internationale, la politique internationale telle qu'il l'a menée, il n'avait pas une vision, à mon sens, qui est celle que même Jean-Paul II pouvait défendre, c'est-à-dire de dire il faut faire la paix. Mais faire la paix, c'est un concept, c'est quelque chose de très large. Lui, en fait, il prenait position. C'est-à-dire que, par exemple, dans la question entre Israël et la Palestine, il a acté des positions qui disaient « Attention, il y a un peuple quand même qui prend des bombes, qui prend cher aujourd'hui, et il faut effectivement reconnaître l'État palestinien. » Il a été sur des questions entre l'Ukraine et la Russie. Il a pris des positions. C'est-à-dire que d'habitude, les papes ne prenaient pas position. Là, il s'est retrouvé quand même à prendre des positions sur la question des migrants. Il a été très positionné. Fois contre, d'ailleurs, regarde, quand il est venu en France, et en l'occurrence, il a posé des choses sur la table qui n'ont pas plu à Macron. Il y a eu des dissensions sur la question des migrants. Donc il a posé des actes, il a posé des choses politiques, et c'est peut-être l'une des premières fois qu'on a un pape aussi incarné... aussi politique, aussi présent en fait sur la scène médiatique et sur la scène politique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une partie de l'Église qui était très, très en dissension. Il y a eu des... Regarde, dans la classe politique française par exemple, aujourd'hui, Jordan Bardella et Marine Le Pen, les hommages ils sont quand même très limités. La Maison Blanche par exemple, c'était qu'il repose en paix. C'est-à-dire strict minimum pour un pape qui
Poutine
en fait
aussi,
les dérange. Poutine pareil. Et donc, t'as quand même toute une partie de la classe politique qui a été dérangée par son pontificat. Et qui sans doute attend qu'il y en ait un qui soit entre guillemets plus politiquement correct. Je pense que ça serait dommage. J'espère que parce que là, va se poser la question de la succession maintenant.
Je crains le retour de Manivelle. J'espère que je me trompe.
Après, place Saint-Pierre, il a mis quand même une statue des migrants, quoi.
Donc, mais parce qu'il était fidèle à ses origines.
Il a remis aussi les valeurs théologales les trois valeurs, charité, la foi, l'espérance, au sein du débat de l'Église, quoi.
C'est marrant comme on peut avoir des discussions intéressantes
à la face
aussi
des politiques.
C'est bien pour des gens qui pratiquent plus.
Je vois ça.
Ce qui est passionnant.
Non, parce que le Vatican traite quand même des boulets. Là, tu parlais des juifs et de ce qui se passe dans la bande de Gaza. Ils traînent des boulets. depuis la Seconde Guerre mondiale, où la position du Vatican était quand même très ambiguë, quoi.
Oui, mais si tu veux, je pense que la façon dont il a son pontificat était de remettre la parole de Jésus. C'est-à-dire qu'en fait, si tu reprends, moi je ne suis pas croyant, mais si tu reprends ce qui a été écrit dans les textes, c'est une religion qui s'est construite contre l'Empire romain, donc contre les puissants, par le peuple, pour le coup, et qui redonnait du pouvoir, en fait, à ceux qui souffraient, en fait, du pouvoir politique. Et qui étaient reconnus par Jésus, c'était les plus pauvres, les plus en marge de la société, ceux qui souffraient le plus. Et l'Église, elle s'en est quand même terriblement éloignée. C'est-à-dire que quand tu vois le faste, quand tu vois les ors, quand tu vois les richesses qui ont été accumulées par l'Église et la déconnexion qui a pu se faire entre ceux qui dirigent et ceux qui sont le peuple, en fait, de catholiques, eh bien, lui, il a tout changé. Il a repris, en fait, des habits très sobres. Il a vécu, non pas dans le palais pontifical, mais à l'extérieur. Il a distribué des soupes populaires en tant que pape, sous le couvert de l'anonymat, dans les rues de Rome. Si tu veux, il a repensé à travers la parole de Jésus et non pas à travers ce qui était hérité. Donc, c'est vraiment une rupture. C'est un clivage qu'il a mis en place. Franchement, je suis un peu inquiet comme Jean-Claude. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Quelle est la suite ? Est-ce qu'on va avoir quelqu'un de très consensuel ? Parce qu'après, on sait que l'Église, elle est très résistante aussi, hein, et que ce passage-là n'a pas été non plus
c'est
tout le monde.
Moi, je mettrais un bémol. Je dirais que c'est toutes les formes d'intégrisme qui sont très résistantes à l'évolution.
T'as raison.
Oui, parce que je vais dire, si on fait le... Là, on fait pas le procès des catholiques, mais je veux dire, toutes les religions... Elle, pour exister, il faut qu'elle soit, qu'elle se tourne vers l'intégrisme, plus ou moins.
Bah aujourd'hui, t'as raison. Il y a un problème de... Mais c'est pas que dans les religions, hein. C'est que quand tu vois en politique, quand tu vois la façon dont s'organise le monde aujourd'hui, t'as l'impression que il y a plus d'existence en dehors de la radicalité, et c'est terrible. Et c'est effectivement, vrai que ça... le pape, comment demain l'Église va s'orienter ? Est-ce que ça va être vers des formes de radicalité supplémentaires ? Tu vois, après Jean-Paul II, il y a eu Benoît XVI. C'est-à-dire qu'après, effectivement, des ouvertures, il y a eu un peu de fermeture à nouveau sur les textes, la doctrine, etc. Qu'est-ce qui va suivre ?
Avoir un pape africain. Hein.
Oui, mais c'est pas forcément... Tu sais, j'entends ça, mais c'est vrai qu'il peut y avoir un pape africain, ça serait vraiment un symbole d'ouverture.
Bah ouais.
En vérité, c'est pas parce qu'il est africain qu'il sera pas conservateur.
Tu vois ce que je veux dire.
C'est-à-dire parce que c'est exactement comme un peu en politique, de toute façon, il y a des courants. C'est une guerre de courant et c'est une guerre
de pouvoir.
Et à un moment donné, il y a des rééquilibrages, il y a des négociations
le discours qu'on porte aujourd'hui, dont vous parlez depuis le début, vous appliquez ça à la politique.
Mais c'est pareil.
C'est le même discours.
Sauf que c'est pas de la politique.
Oui, mais...
Patrick, moi, si je prends mon cas personnel, moi, il y a quelque chose qui a été, dans ma foi et dans ma pratique de chrétien, il y a quelque chose qui a été très important, c'est quand je suis allé visiter Rome, et je suis allé visiter le Vatican, et je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai décalage entre ce que j'avais appris au catéchisme et ce que j'ai vu là-bas. Parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, cette richesse qui est déployée, et je l'imaginais pas. Moi, tu vois, j'ai toujours été élevé en disant, les curés, c'est des pauvres personnes. Je veux dire, ils ont... Mais en fait, si tu creuses un petit peu, tu te rends compte que l'Église catholique a une richesse et que, quelque part, c'était des rois qui ont aussi exploité un petit peu des peuples aussi.
Mais Bruno, justement, le pape François, moi, ce que j'en retiendrai... Ce que j'en retiendrai, c'est qu'il n'a pas changé quand il était en Argentine, dans les quartiers pauvres.
L'évêque des favelas.
Voilà, il était comme il était, et quand il est arrivé à Rome, il n'a pas changé.
Non.
Hein, il est resté ce qu'il était. Et ça, je pense que c'est ça.
Et d'ailleurs, le symbole...
C'est sa marque de fabrique.
Tu vois, on parlait de Notre-Dame de Paris. La raison, sans doute, pour laquelle il ne vient pas à Notre-Dame de Paris, je crois que c'est ce qui a été expliqué, c'est qu'en fait, justement, en fait, ce symbole de la toute-puissance de l'Église, à travers un bâtiment aussi somptueux, les milliards en fait, qui sont mis dessus, etc., ça ne correspond pas à ce que... Ça ne correspondait pas à ce qu'il avait envie de porter.
Je pense qu'il voulait pas. Il voulait pas venir le même moment, le même jour avec Trump, et se confronter.
Ouais, mais je pense aussi qu'il y avait ce côté aussi
de milliardaires.
Je pense qu'il y avait ce côté.
C'est pas des milliardaires, c'est il a pas voulu s'identifier à ces hommes tout puissants des États, etc. Ouais.
Et mais dans un symbole qui est notre âme aussi.
Il a voulu rester humble et
absolument. Il a préféré aller en Corse. Il est allé
à Marseille.
Il est resté 3 jours à Marseille. Et Marseille,
parce que ville populaire,
il a eu des prises de position quand même très marquées par rapport aux migrants et autres. Et moi, je pense que c'est un pape. On en revient. Enfin, nous, personnellement, j'en verrai pas beaucoup encore des papes, mais.
mais on ne sait jamais. De toute façon, ils les choisissent toujours très vieux.
Oui,
hein,
ils peuvent décéder rapidement.
Voilà,
mais quand même.
Tu sais comment ça se passe.
Mais on aura du mal à en retrouver le même, quoi.
Tu vois, le problème de tout ça, c'est que, en fait, pour avoir des. Pour être mis sur un piédestal, ben en fait, il faut décéder dans notre société.
Ah, oui, c'est vrai.
Tu trouves qu'il n'a pas été reconnu pendant son pontificat ?
Peut-être pas assez. Mais tu vois, aujourd'hui, l'unanimité. Il fait l'unanimité. Ah bah non, tout le monde est là en disant.
Je ne citerai pas.
Ça a été un bon pas.
J'ai participé à des obsèques pour amener à des choses. On va peut-être changer de sujet parce qu'on ne va pas passer toute l'émission sur le pape.
Sur le pape.
Pour ce qui s'est passé à Gap dernièrement, il y a eu un homme politique qui est décédé, qui a eu des responsabilités importantes. Et moi, j'ai assisté à cette hypocrisie qui rejoint ce que dit Bruno. C'est-à-dire, quand ils sont en vie, les gens, tu sens quand même qu'ils ne font pas l'unanimité, il y a des critiques très fortes. Et puis, dès qu'ils sont morts, tu entends des discours venant de gens avec qui ils sont opposés, mais très, très fortement.
C'est là que les défunts se retournent dans le cercueil.
C'est incroyable, quoi. Moi, ce genre
de
truc...
Parce qu'ils sont contents qu'ils soient partis.
J'ai du mal à aller à ce type de cérémonie parce que c'est terrible.
La question de la mort, le fait de respecter un mort est un sujet. Oui. Le fait de se contredire par rapport à ce qu'on a pu dire de son vivant est autre chose. Oui. Par exemple, prenons un exemple en dehors de la vie locale, mais tu prends Jean-Marie Le Pen. Quand il est décédé...
Justement, je voulais te le dire. Le jour où il est décédé, moi j'ai repris deux fois des moules. Hein.
Non mais je vais te dire, j'ai aucune réjouissance. J'ai qu'une réjouissance au fait que quelqu'un soit mort. En revanche, ça n'enlève rien à tout ce que j'ai pu combattre contre lui. Et j'ai pas plus de sentiments positifs à partir du moment où il est mort qu'à partir du moment où il était vivant. Enfin,
ce que je veux dire, moi, c'est qu'il faut pas en faire trop. On peut reconnaître l'activité d'un personnage, mais pas en faire trop.
Voilà. Oui. S'il vous plaît. Hop là. Je vous conseille un film sur les papes. Conclave. Vous l'avez vu?
Oui, bien sûr.
Ah bah oui, bien sûr. On est deux à l'avoir vu.
Moi, j'ai pas vu.
Et voilà.
Et ben j'en ai parlé en plus ce matin avec quelqu'un, tu vois.
Et ben voilà. Donc
on est trois.
Moi j'ai regardé Young Pop. C'est mieux.
Ouais. Alors l'élection.
Oh non, pas du tout. Je suis pas d'accord avec toi.
C'est vachement mieux.
En fait,
ça fait pas mal à la tête.
L'histoire de
Sinon, il y a les deux pas possibles. C'est pas mal comme film.
On peut, sans spoiler, on peut dire l'histoire de Conclave.
Oh bah oui, si tu veux.
C'est ce qu'on va vivre là.
Non, pas du tout. C'est ce qu'on aurait peut-être aimé vivre, éventuellement. C'est l'élection d'un pape intersexué.
Ouais.
Ah, voilà. Ah merde.
Voilà.
Ah merde. Le cri du cœur du mec de gauche.
Merde. Il a les deux sexes. Bah ouais.
Mais pourquoi pas, hein.
Bah oui, et moi qui pensais que Jean-Claude était de gauche.
Voilà. Tiens, en parlant de gauche, on pourrait peut-être parler un peu des futures municipales qui arrivent là.
T'as la vache, le changement, quoi.
Parce qu'on se pose quand même une question. Il en est où, notre invité? Il est où?
Il est là.
Il est là.
Il est là.
Avant d'être au micro,
parce qu'il a une veste bleue, un pull rouge. On sait pas où il est.
S'il vous plaît.
Et des cheveux blancs.
S'il vous plaît. On va parler des
municipales. C'est Vianney, non?
S'il vous plaît. Pardon. On va parler des municipales.
Que tu votes à gauche ou que tu votes à droite, c'est tous les mêmes. Alors autant voter à droite.
Je suis de gauche et je vote à droite. Me demandez pas pourquoi, j'ai toujours fait ça.
Moi, mon truc, c'est de voter à 20h moins 1.
C'est quasiment moi qui fais basculer.
Moi, je suis pas emmerdante, je vote toujours comme les sondages.
Travailler plus pour gagner plus, il ferait mieux de réfléchir plus pour se taire plus.
Ce qu'il faudrait, c'est que ceux qui ont donnent à ceux qui n'ont pas.
T'es bourré?
Un peu.
Voilà, donc ça c'était pour ouvrir le bal. Ouais. Alors, c'est municipal, c'est bien, je donne la parole à Jean-Claude Hérault qui connaît bien le dossier de municipal qui a pensé.
Pas du tout. Ouais.
Bah quoi?
Non, pas du tout. Moi.
Tu donnes la parole à l'accusation, vas-y.
En vrai, Jean-Claude, t'es un observateur
averti, exactement. Alors, impliqué, dis-nous, qu'est-ce t'en pince, monseigneur?
Ah, moi je sais pas, hein.
Attention, Jean-Claude Hérault va nous annoncer qu'il va voter pour Roger Didier aux prochaines élections.
J'ai une putain d'information.
Ben, vas-y, si t'as une putain d'information.
Ah, bah mince,
Wakong.
Il a une exclue.
Alors, t'as une exclue, Lulu?
Il est en train de pleurer là. Alors, je sais pas pourquoi.
Ah bah si t'as une exclue, nous on est tout oui.
Peur. Je vais être candidat.
Il est candidat au municipal.
C'est candidat.
Ah voilà.
Jean-Claude.
Jean-Claude Hérault le retour.
Non, Jean-Claude.
Non, mais parce que deux listes de gauche ça suffit pas. Il faut une troisième. Merde.
Et,
ouais,
et toi t'as toujours
pour
été dans la troisième.
Roger.
C'est ça.
Pour faire gagner Roger, il faut trois listes de gauche. Il y en a deux, il n'y en a que deux là de gauche.
Ça va
donc
pas.
Il a encore un peu des chances de perdre, Roger.
Il a des chances de perdre. J'aime beaucoup.
Donc, donc j'en crée une troisième.
D'accord.
Comme ça, il est sûr de passer au premier tour. Et
bon,
il
tu plaisantes, assez, bien sûr.
Il n'y aura pas assez de monde à Gap pour faire des listes.
C'est ça.
Tu plaisantes, évidemment.
Mais non, pas du tout.
Tu te présentes.
C'est la gueule un peu.
Non, mais. Non mais c'est du lard du cochon.
Non Matin,
on l'a perdu complet.
Il y a de la buée sur les lunettes de Jean-Claude, hein, pour bon. Quelqu'un qui voit pas.
Non non, voilà, j'ai dit ce que je pensais quoi.
Ah mais là on pleure.
Oui,
mais on tellement rire de liste.
Tu aimerais te présenter? Tu Non mais c'est difficile. C'est difficile.
Là, entre nous soit dit, la fumée blanche est pas encore sortie.
Ah non, moi c'est la fumée noire.
Ah, ça risque pas. Ça risque
oh, la
pas.
Vache, j'ai... Et je l'avais jamais connu comme ça.
Eh ben oui, non, mais là, il se lâche complet.
C'est
hein.
Terminé, là. La mort du pape, ça lui a fait.
Ah,
un
bah,
truc.
C'est un truc.
C'est pas la mort du pape.
Bon, alors, mais tu non, te présentes non. aux élections
ouais, ouais.
municipales.
Ouais.
Ah, mais sur quelle liste?
Mais non.
La sienne.
Sur ta liste. Sur ta liste.
Bon, c'est Jean-Claude.
Patounet, tu es avec moi.
Ouais, je suis mes premiers adjoints, autant j'y vais.
Bah, remarque. Jean-Claude, sur un malentendu, ça peut marcher.
J'ai glissé.
Sur un malentendu, ça peut marcher, oui. Bon,
non, mais ça, c'est une liste macroniste, du coup, entre Jean-Claude
entre,
et
Patounet. Et ben,
on se retrouve au centre, là.
Les
macrons
du cœur. Ouais, ben voilà, on fait la liste du centre.
Tu vois?
Par, bon. Les ex, par l'addition et la
c'est le scoop, c'est le scoop.
Ah ouais, non, mais alors là tu me scotches.
C'est lui, fait
une actualité.
Moi, hein.
Non, non, mais bien sûr,
non,
mais
là,
bon.
Vu ce que tu viens de nous annoncer,
ouais.
Il a plus rien à dire.
J'ai plus rien à dire.
Est-ce que tu as déjà des vues sur les personnes avec qui tu vas y aller?
Non, mais je déconne.
Ah bah oui, non, mais.
Ah bah voilà.
Ouais, voilà.
Oh, c'est une émission sérieuse.
Ah bon? On n'est pas au coq à l'âne, là ?
Demain matin, parce qu'on enregistre, on est mardi aujourd'hui, demain mercredi, à 7h30, je fais, vous savez, je fais des teasers ouais. Tous les matins, jusqu'à la diffusion de l'émission en intégralité sur le alpe1.com. Demain matin, je vais ouvrir, évidemment, avec ça.
Oh, mais
tu vas faire péter l'audience, et je fais une brève.
Et je ne vais rien dire jusqu'au moment où tu annonces
que c'était une vanne.
Mais c'est une blague.
Mais non.
Ah
mais
si.
Ah
bah
là,
ah bah je vais le faire.
Mon pauvre, tu vas prendre 3 jours difficiles. Hein, ouais. Parce que
mais non, pas du tout. Ferme je m'en fous.
Comme le lendemain, t'as le Dauphiné libéré qui va dire. Et si Jean-Claude y allait?
Et si Jean-Claude y allait?
Et si c'était lui?
Et pourquoi pas BFM qui pourrait faire un sujet sur mais notre oui, renard préféré?
Et si c'était lui?
Tu le vois, renard argenté.
Tu vois la une?
Ah ouais, ça serait magnifique.
Ça serait pas mal.
Ça serait magnifique.
Ferme ton téléphone.
Bon, mais en France, on a une déception du coup.
Ceci étant dit.
Oui.
Ah bah du coup il reste plus que Christophe Pirel alors.
Christophe,
oui. Quatrième liste.
Dans,
quatrième
quel, liste dans quelle position seras-tu?
Aucune.
En position
non,
difficile alors?
Non, 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 pas non. En position difficile. Je serai, je soutiens Ambition pour Gap.
Donc c'est Madame Quentz.
Alors pour l'instant il n'y a
on
pas
d'accord.
De liste mais
bah, c'était sais, ce qui était ce qui, à l'époque était la tête de liste.
C'est Charlotte Quentz qui est tête de liste en 2020 qui a fait le deuxième meilleur score après Roger Didier, donc c'est toute la liste, hein, pour le coup Ambition pour Gap, et ça repart,
oui, bien
ça
sûr.
Repart, et avec plein d'ambition, plein de... avec un vrai projet aussi. Non, en fait, j'entends ce que dit Jean-Claude, et pour rebondir sur la question sérieuse qui se pose derrière, c'est-à-dire la division des voix de gauche.
Ouais. Bah c'est le vrai problème.
Oui, mais ça veut rien dire, en fait.
Ah bon, d'accord, bah, explique-toi.
Mais ça veut rien dire. C'est comme si tu dis, en fait, parce que on aime les mimosas, on doit tous être ensemble et aimer les mimosas. Si tu veux. Enfin,
et en fait, c'est joli, les mimosas.
Oui, mais c'est très joli.
Moi, j'ai mangé
mais
des
si
œufs
veux...
mimosas hier.
Moi, je préfère la lavande.
Si tu veux, ça n'a... aujourd'hui, il y a deux propositions différentes. Tu as des gens qui sont soutenus par des listes, par des partis politiques. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont accumulé des étiquettes. Mmh. Ils ont décidé que tout ça, ça faisait en fait une dynamique avec une personne qu'on met devant et qui va devenir le futur sauveur du monde. Il y a un groupe citoyen qui, en revanche, veut en finir avec cette façon de faire de la politique. C'est-à-dire de dire, il y en a quand même ras-le-bol des partis politiques qui organisent les choses, manipulent les choses, mettent une tête de liste, et puis à la fin, il n'y en a qu'un qui gouverne, et il ne se passe pas de changement pour les citoyens. Si c'est en fait pour mettre un Roger Didier de gauche, qui, soi-disant de gauche, parce qu'en plus, pour le coup, comme on n'a pas parlé de projet, je ne peux même pas te dire que son projet est de gauche, c'est ça pour faire la même organisation que Roger Didier, mais avec quelques années de moins, si tu veux, ça ne nous intéresse pas tellement. Donc la démarche d'Ambition pour Gap, c'est pas tellement en fait de se positionner d'ailleurs dans une logique de la gauche à tout prix. C'est de créer un mouvement, une dynamique et un projet qui correspond à ce dont les habitants ont besoin. C'est pas d'accumuler en fait des étiquettes, un, le point et la rose, deux, le truc du Parti communiste, deux, le truc des Verts, ouais, les machins, dont tout le monde se fout complètement, totalement. Enfin, dire, c'est quoi l'intérêt aujourd'hui?
Non, moi je suis d'accord.
C'est quoi l'intérêt aujourd'hui d'avoir ça
en local?
C'est quoi le projet?
En municipal, on s'en fout de l'étiquette, on a envie d'un projet, effectivement.
Donc il y en a un qui est parti, qui a levé la main et qui a dit, c'est moi le chef, bon, suivez-moi, bon, du coup c'est quoi ton projet? On verra plus tard. Ah non, ça peut pas marcher comme ça. Donc en fait, on lui a demandé de repositionner les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire d'abord, on travaille ensemble un projet, on travaille ensemble à savoir comment on constitue la liste, ensuite qui du coup va être tête de liste, comment on va fonctionner si jamais on gouverne, comment on prend les décisions ensemble. Ils ont refusé ce dialogue-là parce qu'en fait, ça les ennuie. Ça les ennuie, c'est pas du tout leur méthode, c'est pas leur façon de pratiquer.
Alors en dehors donc,
à partir de là, pour moi, il n'y a pas deux propositions de gauche. Il y a une proposition de parti politique à l'ancienne, d'apparatchik, très bien, charge à eux en fait de faire leur campagne à leur manière, et puis il y a une démarche qui pour moi est enthousiasmante, avec un projet politique, une façon de repenser la vie politique, d'associer les citoyens, et pour moi ça c'est vraiment la façon de s'opposer à Roger Didier, c'est-à-dire il y a un homme seul qui gouverne face à un vrai projet et avec une dynamique.
Est-ce que tu es bien sûr au courant que cette division, puisque c'est une division, quoi qu'on en dise, va avantager le maire sortant.
Je ne reconnais pas cette division.
D'accord.
Pour qu'il y ait une division, il faut d'abord qu'il y ait une union. En l'occurrence, on a beaucoup de divergences.
Je te parle de l'électeur lambda qui voit ça.
Non, mais j'ai conscience ça va créer une offre politique diverse. En même temps, aujourd'hui, personne ne sait quelle offre politique va être aujourd'hui. Enfin, est-ce qu'il va y avoir seulement trois listes ou est-ce qu'il va y en avoir plus? Potentiellement, les voix de Roger Didier, elles vont être aussi divisées quelque part.
Oui, oui.
Et nous, d'ailleurs, le projet d'Ambition pour Gap, il ne se veut pas un projet sectaire ou fermé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont voté Roger Didier qui peuvent très bien se reconnaître dans ce projet politique. Il n'y a aucune raison que développer cette ville, on parle d'économie, on parle de transport, on parle de l'intégralité des sujets qui concernent cette ville, il n'y a aucune raison que certains électeurs de Roger Didier ne se reconnaissent pas dans cette dynamique-là. C'est pas fermé, c'est pas sectaire, il faut pas avoir une carte de gauche pour voter pour cette liste. Enfin, tous les citoyens sont amenés à y participer et à pouvoir voter pour elle.